Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Périgord littéraire. Voilà, et bien cette semaine nous allons retrouver Julien Viau, plus connu sous le nom de Pierre Loti, nom que lui donnera la reine Pomarée, c'était le nom d'une fleur tropicale. Alors nous allons également retrouver sa famille, je devrais dire sa double famille, car en plus de son épouse, la périgourdine Blanche Franc de Ferrières, qui enceinte de 6 mois fera une chute, perdra son enfant et demeurera sourde malgré de nombreux traitements, avant bien sûr de donner naissance à un fils prénommé Samuel. En outre, il s'installe donc Pierre Loti à Rochefort, il installe une jeune femme basque espagnole, Crucita Gaïza, qui lui donnera 4 fils qu'il ne reconnaîtra pas. 2 décéderont en bas âge. Alors pour poursuivre son œuvre littéraire, en dehors des ouvrages déjà cités, il faut signaler entre autres Madame Chrysanthème, Le roman d'un enfant, Fantôme d'Orient, Au Maroc, Constantinople, Propos d'exil et Ramuncho, qui est un des titres les plus connus. Alors il sera réédité, Ramuncho, 20 fois. C'est l'histoire un peu triste d'un jeune basque né de père inconnu qui aime Gracieuse dont il a la promesse de l'épouser à son retour du service militaire. Mais la mère de Gracieuse ne l'accepte pas pour gendre et croit sa fille dans un couvent. Rentré au pays après 3 ans d'absence, le service militaire durait longtemps à cette époque-là, il apprend que sa fiancée est entrée en religion. Il la rencontre avec le projet de l'enlever. Mais il comprend que sa vocation, forcée au début, est plus forte et il part pour l'Amérique. Alors, c'est un peu triste, un peu comme tous les romans d'ailleurs de Loti. Alors, Loti a fait de Ramuncho une adaptation pour le théâtre avec Sylvie et René Alexandre dans les rôles principaux. Alors, le 22 mai 1891, Loti est élu à l'Académie française au fauteuil 13 en remplacement d'Octave Feuillet. Et puis, il s'installe dans une propriété achetée à Hendaye, au Pays Basque. Cette région est devenue sa patrie d'élection. Blanche lui rendra visite de façon irrégulière. Admis à la retraite en 1910, après plus de 19 ans passés en mer, il continue malgré tout à voyager à New York pour la première de sa pièce de théâtre « La fille du ciel », qui est une féminisation de la pièce bien connue « Le fils du ciel ». En 1914, à la déclaration de la guerre, il reprend volontairement du service et donne à l'illustration une série d'articles concernant le conflit. Début avril 1915, à la demande du président Poincaré, en allant à leur grand quartier général, il rend visite au roi Albert, qui est le roi des Belges. Alors le compte-rendu de cette rencontre figure sous le titre « Au grand quartier général belge » dans le numéro 3762 de l'illustration. Et voici un extrait, je vais pas tout vous donner, c'est un peu long. Alors cet article, donc « Au grand quartier général belge » commence ainsi. « Rendant au grand quartier général belge, où j'ai à m'acquitter d'une mission du président de la République française, à sa majesté, et sauvagement, je traverse aujourd'hui Furnes, autre ville inutilement et sauvagement bombardée, où à cette heure le vent glacé, la neige, la pluie, la grêle font rage sous le ciel noir. » Alors il poursuit ainsi, l'article est assez long d'ailleurs, il tient, je ne sais pas si vous connaissez les revues d'illustration, il tient à peu près pratiquement une page et demie. Voilà. Alors il continue ainsi, il pleut, on est transi de froid, nous voici enfin arrivés et dans un instant je vais le voir, ce roi, et qui est sans reproche comme sans peur. N'étaient ses troupes étant d'auto-militaires, on n'imaginerait jamais que ce village perdu puisse être le grand quartier général. Il faut descendre de voiture, car le chemin qui mène à la résidence royale n'est plus qu'un sentier, parmi les rudes autos qui stationnent là, toutes maculées de la boue des campagnes, et il en est une élégante, mais sans armoirie d'aucune sorte, seulement 2 lettres tracées à la craie sur la portière, SM, autrement dit, Sa Majesté. Et c'est la sienne. Un coin charmant de vieilles femmes, un antique abbaye entouré d'arbres et de tombes, c'est là sous la pluie, dans le sentier qui borde le religieux petit cimetière, un aide-de-camp vient à ma rencontre, aimable et simple, comme sans douce, ne peut manquer d'être son souverain. Entrée de la demeure, pas de garde, aucun cérémonial, au modeste corridor, et c'est juste le temps de jeter mon manteau. Et dans l'embrasure d'une porte qui s'ouvre, le roi m'apparaît, debout, grand, svelte, le visage régulier, l'air étonnamment jeune, les yeux francs, doux et nobles, la main tendue, pour le bon accueil. Au cours de ma vie, d'autres rois et empereurs ont bien voulu me recevoir, mais malgré l'apparat, malgré les palais, parfois splendide, jamais encore, au seuil de cette maisonnette, je n'avais éprouvé le respect de la majesté souveraine, si infiniment agrandie, ici par le malheur et le sacrifice. Et quand j'exprime ce sentiment au roi Albert, il me répond souriant, « Oh, mon palais, moi, vous savez, bon. » Et il achève sa phrase par un geste détaché, désignant le pauvre décor, bien modeste en effet, la salle où je viens d'entrer, mais par l'absence de toute vulgarité, gardant de la distinction quand même, une bibliothèque bondée de livres occupe entièrement l'une des parois. Au fond, il y a un piano ouvert avec un cahier de musique sur le pupitre. Au milieu, une grande table est chargée de cartes, de plans stratégiques, et la fenêtre ouverte, malgré le froid, donne sur une sorte de vieux petit jardin de curé, presque enclos, effeuillé, triste, qui semble pleurer de la pluie d'hiver. Enfin, je me suis acquitté de la facile mission dont m'avait chargé le président de la République. Le roi veut bien me garder longtemps à causer, mais si je me suis déjà senti hésitant pour écrire le commencement de ces notes, je le suis tellement davantage pour toucher si discrètement que ce soit cet entretien. Et alors, combien va sembler pâle ce que j'oserais en dire. Et c'est qu'en effet, je sais qu'il ne cesse de recommander à ceux qui l'entourent, surtout tâcher qu'on ne parle pas de moi. Et je connais, je comprends si bien l'horreur qu'il professe pour tout ce qui ressemble à une interview. J'étais donc d'abord décidé à me taire, et cependant, lorsqu'on a quelque chance d'être entendu, comment ne pas vouloir, dans la faible mesure de ce que l'on peut contribuer à répandre, la gloire d'un tel nom. Ce qui frappe d'abord chez lui, c'est tant de sincérité et d'esquisse modestie dans l'héroïsme et cette presque inconscience d'avoir été admirable. La vénération que les Français lui ont vouée, sa popularité chez nous, et juge de ne pas les mériter autant que le moindre de ses soldats tués pour notre commune défense. Je lui conte que j'ai vu même au fond des campagnes, chez des paysans, l'image du roi et de la reine des Belges à une place d'honneur, avec des petits drapeaux noirs, jaunes et rouges, pieusement épinglés autour. Il a l'air d'à peine y croire. Son sourire et son silence semblent me répondre. C'est pourtant si naturel que j'ai fait. Est-ce que roi digne de ce nom aurait pu agir d'une autre manière? Maintenant, nous causons des Dardanelles, où se joue à cette heure une partie grave. Il veut bien me questionner sur les embûches de ces parages que j'ai longtemps fréquentés et qui n'ont cessé de m'être si cher. Mais tout à coup, une pluie froide rafale entre par la fenêtre toujours ouverte sur le petit jardin triste. Avec quelle gentillesse, sollicitude, alors il se lève et qu'on peut faire un simple officier pour fermer lui-même les vitres près desquelles je suis assis. Et puis nous causons de guerre, de fusils, d'artillerie, sa majesté est au courant de tout, comme un général déjà rompu au métier. Voilà. Alors il poursuit ainsi rapidement, étrange destinée de ce prince qui au début ne semblait pas désigné pour le trône et qui peut-être eût préféré continuer à vie un peu retirée de jadis auprès de la princesse qu'il aimait quand ensuite, couronne intendue, faut poser sur son jeune front, il pouvait se croire en droit d'espérer à une ère profonde de paix au milieu du paisible peuple et au contraire il n'aura connu qu'épouvantable tragique. Ce sont les règnes du jour au lendemain dans un délai qui relance sans même une hésitation dédaigneux des compromis qui pour un temps du moins auraient pu au préjudice de la civilisation mondiale préserver un peu ses villes et ses palais et se dresser devant l'armée du monstre comme un grand roi guerrier au milieu d'une armée de héros. Voilà. Voilà donc c'était l'extrait de cet article de Pierre Loti. Alors Pierre Loti, en mai 1916, on remonte un peu dans le temps, Loti, à la demande du ministre de la Marine, prend la parole lors de la représentation de gala donnée pour le souvenir de la France. Cette intervention sous le titre « Nos matelots », une allocution de M. Pierre Loti figure dans le numéro 3821 de l'illustration, toujours elle, si je puis dire. Alors donc, je vais quand même vous en donner un extrait, je ne vais pas tout dire parce que ça serait un petit peu long. Alors donc, voici le titre de cet article, « Nos matelots, une allocution, décidément, de M. Pierre Loti. Parler de nos marins, de nos matelots, mais je l'ai fait toute ma vie, je leur dois ce que je suis, je leur dois tout, car dans mon œuvre, la seule partie qui vaille peut-être est celle qui m'ont inspiré pendant près d'un demi-siècle. J'ai vécu avec eux, je les ai suivis d'un regard fraternel, aussi bien dans leur naïf égarement et les violences de leur courte joie que dans leur austérité coutumière, dans leur inlassable résignation et leur renoncement sublime. Je me suis penché même sur les plus humbles d'entre eux, les plus primitifs, et malgré les apparentes distances que je leur de leur tact naturel, pardon, je sais toujours respecter. Malgré eux, ils ont été mes compagnons, les plus fidèles, les plus affectueux et, je peux dire, les plus chers. Pour moi, cette appellation de matelot s'applique surtout, bien entendu, à ceux qui le sont de père en fils, à ceux qui le sont de race pure, germés au vent de la mer, éclos dans les villages, de nos côtes et dès l'enfance, petits mousses dans nos marques de pêche, jusqu'à l'heure où le recrutement maritime nous les amène sur nos navires de guerre. Sans cela, les vrais, ils forment dans notre nation comme une caste à part, j'oserais presque dire une élite. Il semble que les hérédités de lutte, des souffrances, de continuelle abnégation et aussi des hérédités de rêve et de candeur les aient d'avance trempés autrement que les autres hommes. Ensuite, c'est la mère qui est là, grande éducatrice, terrible et splendide, qui les prend et qui commence tout de suite à les anoblir pour chasser de leurs jeunes âmes la mesquinerie et la crainte. Elle les enveloppe de sa magnificence et de son horreur. À l'école du danger, ils apprennent le dévouement mutuel et de la vraie fraternité. Et un peu plus tard, enfin, à leur arrivée dans la marine militaire, la saine discipline, qui chez nous n'est ni aveugle ni brutale, comme chez les barbares d'Allemagne, la saine discipline trempée de sympathie, les accueille pour en faire des hommes, c'est pour la plupart incomparables, dont le courage silencieux et simple ne broche plus devant la mort. C'est pas très bien. Bien, alors il continue ainsi. J'ai dit que par ce nom de matelot, j'entendais en première ligne ce que de longs atavismes ont préparé à le porter avec noblesse et aussi la désinvolture spéciale qui lui convienne. Mais je serais injuste de me montrer trop excessif. En effet, il semble qu'il y ait une sorte de belle contagion du sacrifice et de l'héroïsme à laquelle n'échappent jamais tout à fait ces autres jeunes garçons venus de nos provinces de l'intérieur et que les hasards, leur destinée nous amène. On dirait parfois qu'il suffit du grand col bleu jeté sur les épaules pour remonter peu à peu leur âme à l'unisson de celle des enfants de la mer. Et parmi ces braves intrus qui plus que jamais nous envahissent, j'en ai rencontré qui savaient se former à l'image des matelots de race, acquérir même leur tournure d'esprit et devant le danger devenir aussi des êtres simplement admirables. Mais cela n'empêche pas que ce soit toujours eux les vrais, ceux de nos côtes, et à qui nous sommes débiteurs du miracle et de ses transformations. Comme Pierre Loti était originaire de Rochelle. Voilà, donc du bord de la mer. Alors, je vais continuer un tout petit peu. Nos matelots, un demi-siècle, disais-je, a passé, hélas, depuis le jour de ma première apparition au milieu d'eux. J'y semblais si peu préparé par mon enfance, trop adulé que de vieux capitaines de vaisseaux d'alors, de vieux préhistorique d'aujourd'hui qui s'en était inquiété beaucoup. Mon petit enfant, m'avait-il dit, on ne t'a guère donné la trempe qu'il faudrait pour jouer ce rôle. Défie-toi de te laisser déconcerter par la rudesse de nos matelots. Et plus tard, si tu as l'honneur de les commander, n'oublie jamais qu'ils valent, rappelle-toi, surtout qu'aux heures de péril, ils mériteraient souvent que l'on ployât le genou devant eux. Et ce disant, ces vieux chefs retraités qui avaient connu Trafalgar, Aboukir, la Sémillante, la Méduse, les temps épiques de l'ancienne marine, ces vieillards dans le visage paraissaient si durs à être capables d'avoir les yeux humides de larmes, de souvenirs de leur équipage d'autrefois. Voilà, ben, je vais m'arrêter là. Je crois que le quart d'heure arrive également à son terme. Eh bien, ma foi, mais moi, je vais vous dire à la semaine prochaine. Et puis, on va retrouver une dernière fois Pierre Loti.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.